Micro en balade. Aujourd'hui, une balade sympathique sur les traces de Tino Rossi, une rétrospective d'une exposition tenue récemment, et je vous retrouve tout de suite depuis la salle des congrès. C'est à la salle des congrès que nous avons rencontré M. Osvaldo, qui est en grande partie celui qui a composé la collection de l'exposition en cours, l'exposition de Tino Rossi, à l'hommage de Tino Rossi. Merci de nous accorder quelques minutes. On voit que vous avez beaucoup de temps, enfin beaucoup de travail plutôt, de temps à consacrer à tous les amis qui viennent pour visiter l'exposition. Donc, merci. Tout d'abord, une première question. Quelques renseignements généraux au sujet de la personne de Tino Rossi. Peut-être rappeler la date de naissance et le lieu.
Bon, alors, Tino est né à Ajaccio le 29 avril 1907, à 7h du matin, au 43 rue Fesch, Ajaccio exactement. Voilà, ça c'est sa date de naissance. Les points forts de sa carrière, vous voulez savoir?
Oui,
alors,
peut-être.
Les points forts de sa carrière, bon, ben, c'est d'abord son premier enregistrement qui s'est effectué en décembre 1932, date à laquelle il a enregistré sur disque parlophone la fameuse chanson Tchoucharella, la fameuse berceuse corse. Bon, ça, c'est le premier point fort. Ensuite, il y a eu également en 1933 l'enregistrement du tango de Marie-Lou qui a fait vraiment un tube. Enfin, on ne disait pas comme ça à l'époque, mais enfin, ça a été vraiment un tube. Et ça s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires à l'époque. C'était formidable, le tango de Marie-Lou. Et ensuite, alors le grand boom, ce qui a fait connaître Tino pratiquement dans toute la France d'abord, c'est en 1934 au Casino de Paris. Alors au Casino de Paris, où il a chanté les premières chansons que Vincent Scotto a fait pour lui, c'est-à-dire Vieni Vieni, Au Corse Île d'Amour, enfin voilà. Et alors si on continue sur les points forts, il y a eu le cinéma, donc alors les films. Le premier grand film de Tino, c'était Marinella, toujours avec des chansons de Scotto. Alors Marinella, Chichi, J'aime les femmes, c'est ma folie, Laissez-moi vous aimer, tout ça. Puis ensuite, jusqu'à la déclaration de la guerre, ça n'était que du succès, quoi, des films, hein, comme Au son des guitares en 1936, Naples au baiser de feu en 1937 et Les Lumières de Paris en 1938.
Toujours pour la France et puis l'étranger.
Ah ben alors l'étranger, Tino a fait un départ en Amérique en 1938. Seulement, arrivé là-bas, bon, il était accompagné de Mireille Balin, qui était sa compagne de l'époque. Et Mireille Balin, elle, avait un contrat cinématographique et Tino avait un contrat pour chanter, faire plusieurs récitals à New York et dans les environs. Alors ils ont fait quelques petites choses, seulement ils s'ennuyaient tous les deux, l'un de l'autre d'abord, ils n'étaient pas au même endroit. Et puis ensuite, comme c'était la guerre qui approchait, enfin on en parlait de partout, Tino s'ennuyait, Mireille Balin de son côté s'ennuyait, alors ils sont rentrés tous les deux. Et donc la carrière cinématographique de Tino en Amérique, enfin la carrière de Tino américaine, a été interrompue volontairement, si on peut dire. Quoi.
Une fois revenu sur le continent européen, il a poursuivi après la guerre, je suppose.
Alors, non. Dès 1941, il a poursuivi sa carrière cinématographique avec des films très très célèbres, comme Fièvre, qui est peut-être son meilleur film. Un film de Jean Delannoy en 1941, Fièvre, qu'il a joué avec Madeleine Sologne et puis Jacqueline de Lubac et Ginette Leclerc aussi. Et puis ensuite, plusieurs autres films. Alors, en 1942, il a connu Lilia Vetti, qui est sa femme, enfin, qui a été sa troisième et dernière femme, quoi, puisque c'est toujours sa femme actuellement, dans le film Le Chant d'exilé, c'est en 1942. Et ensuite, il a fait d'autres films, Mon amour à pas de toi, L'île d'amour, Sérénade aux nuages, Le gardien. Et puis, alors là, c'était La libération. Et puis, il a tourné d'autres films, comme Destin. Alors, le fameux film Destin, là, qui marque dans la vie de Tino, puisque c'est dans ce film de Richard Potier, Destin, que Tino chantait le fameux Petit Papa Noël, en 1946. Et
qui a eu un succès depuis lors.
Qui a eu un succès, mais qui a toujours un succès faramineux. Qui a toujours un succès. D'ailleurs, je crois que c'est la deuxième chanson au monde qui a obtenu un tel succès, après le fameux Noël blanc de Bing Crosby. Hein? Enfin, disons que Bing Crosby chantait en anglais, en américain, Bon, ça touchait beaucoup plus de gens. Bettino, avec son Papa Noël, ne touchait le chantant en langue française. Et vraiment, ça a été quelque chose d'incomparable. Et ça existe toujours. Il y a toujours 200 000, au moins 200 000 disques de vendus chaque année de Papa Noël. Voilà.
Ce qui est remarquable depuis sa disparition même, ça n'a rien à voir.
Ah oui, non mais absolument, de toute façon Papa Noël subsiste toujours. Et puis, vous savez, il y a des artistes que j'aime bien, comme Nana Mouskouri, tout ça, mais ces gens-là ont essayé d'enregistrer Papa Noël, mais il n'y a rien à faire. Hein. C'est Papa Noël Tino qui marche, hein. C'est Tino, hein. Il n'y a rien à faire. Parce qu'il y en a, il y a eu Nana Mouskouri, il y a eu les compagnons à chansons, il y a eu Mireille Mathieu, Eddie Constantine, tout un tas de gens qui ont essayé d'enregistrer Papa Noël. Mais rien à faire, c'est la voix de Tino dans Papa Noël qui a marqué et qui marque toujours. Hein.
Sa voix a quelque peu changé au cours des années, bien sûr. Ah, bien quelle sûr. Est l'époque la plus appréciée?
C'est difficile à dire, parce que les avis sont différents suivant les gens. Vous voyez, moi, je vais vous dire une chose, pour contenter tout le monde. J'aime beaucoup la voix de Tino d'avant-guerre. Je l'aime beaucoup dans les années 40. Je l'aime bien dans les années 50. Je l'aime assez dans les années 60. Et je l'aime toujours dans les années 70 et 80. Mais il faut avouer que, par exemple, pour chanter les classiques, avant-guerre, quand il chantait la romance de Maître Patelin, l'Aubade du roi d'Istre, Tristesse de Chopin, toutes ces choses-là, les Pêcheurs de perles de Bizet, il avait une voix extraordinaire, une voix de petit ténor, mais alors d'une pureté inégalée, puisque même Tito Chippa, le fameux ténor italien, disait « J'ai jamais entendu une voix aussi belle avec un legato aussi juste, j'ai jamais entendu un legato aussi formidable que celui de Tino Rossi ».
Si on parle de sa production totale de disques, est-ce que vous avez un chiffre en tête?
Oui, il faut compter environ, pas tout à fait, 1300 chansons enregistrées. Hein. Je ne parle que ce qui est enregistré. Maintenant, il y a des inédits, on ne sait pas où ils sont passés. Bon, enfin, moi j'en ai quelques-uns, mais je n'ai pas tout, malheureusement. Et maintenant, au point de vue vente, alors là, c'est difficile à chiffrer. Hein. On peut tourner autour de 300 millions de disques vendus. Voilà, pour Tino.
Qui fait quand même des chiffres exceptionnels. Hein.
Ah, sûrement. Parce que même les 78 tours à l'époque, qui étaient. Parce que vous savez, à l'époque, avant-guerre, pour s'acheter des 78 tours, il fallait quand même avoir un peu d'argent de côté. Hein, ça n'était pas donné. Et il fallait avoir un phono. Tout le monde n'avait pas de phono. Hein. Eh bien, Tino vendait facilement 70 000 78 tours par mois. Alors qu'un chanteur qui en vendait 10 000 était considéré comme un chanteur déjà au-dessus de la norme. Alors Tino est arrivé à balayer tout ça, et puis avec ses 70 000 par mois, enfin c'était la folie à cette époque-là, la folie Tino Rossi. Hein. Vraiment, il était, c'était, vous savez, au point de vue idolâtrie, des gens comme Johnny et tout ça n'ont rien inventé. Hein. Tino était la première idole, vraiment la première idole. On se battait, on lui déchirait ses vêtements, on se mettait à genoux devant sa voiture pour l'empêcher de démarrer. Enfin, les femmes surtout, hein, les femmes étaient folles. Mais les hommes les aimaient bien aussi, pas tous, hein. Il y en avait qui le jalousaient bien entendu.
Quanto t'adoro, le tue bellezze, le tue collane in oro, ciucciarelli in zuccherata, quante longa sta nottata.
Si on parlait un petit peu de votre collection, depuis quand est-ce que vous avez commencé vous-même à collectionner et photos et disques de Tino Rossi?
Eh bien les disques, ça fait quand même pas mal de temps, parce que j'aime Tino depuis l'âge de 5 ans pratiquement, depuis que j'ai vu le film Le Gardien. Et je ne peux pas dire que j'ai commencé à acheter des disques à cette époque-là, parce que je n'avais pas d'argent, puis je n'aurais pas su comment faire. Mais enfin, disons qu'à partir de l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à faire les... Je suis parisien d'origine, j'ai commencé à faire les puces tout autour de Paris, et puis j'ai acheté les 78 tours de Tino. Maintenant, au point de vue photo, je n'y songeais absolument pas. Alors, depuis que j'habite encore, ça fait une quinzaine d'années, maintenant que j'habite à Ajaccio, eh bien, je collectionne les photos depuis environ 5 ans.
Et la collection que vous exposez, ce n'est pas uniquement votre collection, si ?
C'est une, pratiquement oui. C'est-à-dire quand même, il y a quelques photos d'opérette que des amis du club m'ont prêtées, les quatre panneaux avec des photos d'opérette qui ne sont pas à moi. Et puis également une photo de Madame Rossi et puis le costume que m'a prêté Madame Rossi en l'occurrence. Sinon tout le reste est à moi, hein. Que ce soit photo, disque, petit format, les verres décorés, tout ça c'est à moi et j'en suis fier.
Si on parle un petit peu de l'origine, comment Tino s'est-il lancé Je suppose que ça s'est passé dans le petit café d'Ajaccio à l'époque.
Oui.
Accompagné de la guitare.
Oui, c'est-à-dire, il a toujours chanté, même en étant gosse et jeune homme, il a toujours chanté. Hein. Il prenait sa guitare, il chantait, il faisait la sérénade aux belles, il a toujours chanté. Et même les copains lui demandaient, enfin ça ce sont des anecdotes que je n'ai pas connues malheureusement, moi je suis trop jeune, mais enfin ce sont des anecdotes, mais véridiques. Comme quoi, Tino, ses copains lui demandaient de chanter pour telle belle, parce qu'eux ne savaient pas pousser la sérénade. Et puis alors, il y avait deux, trois gamins de son âge qui l'accompagnaient, et Tino chantait. Il chantait aussi bien, il chantait plutôt du classique, hein, Les Pêcheurs de Perles ou Les Millions d'Arlequin, des choses comme ça, vous voyez. Et il faisait la sérénade pour les copains. Et une fois, il avait voulu la faire pour lui. Seulement, je crois qu'il a reçu un pot de chambre sur la tête ce jour-là, parce que le père de la fille était à la fenêtre.
Voilà. Dans quelle langue est-ce qu'il a chanté ?
Dans quelle langue il a chanté tout ce qu'il a enregistré? Oh, pas mal de langues, hein. C'est-à-dire, bon, en dehors du français, il a chanté en anglais, il a enregistré en anglais avant-guerre, d'ailleurs accompagné par l'orchestre de Ray Ventura et ses collégiens. Excusez-moi. Et il a chanté, bon, bien sûr, bien entendu, en langue corse, il a chanté en italien, en napolitain, ce qui est un peu différent aussi, en espagnol, en provençal, en langue basque. Vous voyez, enfin, il a chanté dans pas mal de langues, hein.
Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté.
Je vois ici une photo avec toutes sortes de musiciens, de guitaristes surtout. Qui sont ces personnes?
Oui, alors c'est une photo qui est très prisée. C'est une photo qui a été prise 11 mois avant la mort de Tino, au Scudo, chez lui. Alors on voit Tino au centre et autour de lui, 8 musiciens, 8 guitaristes, dont Polo Culici, le pauvre Polo qui est mort accidentellement il y a un an et demi maintenant. Et puis Jean Armani, qui est décédé également il y a 2 mois. Alors tous les autres sont encore là, bien entendu. Il y a Antoine Bonelli, Jean Bozzi, le frère de Polo Culici, et puis également Giordani, François Giordani, le chanteur, Pierrot. Ah lui, je me souviens plus son prénom, ce guitariste-là. C'est le seul dont je ne me souviens pas le prénom. Voilà, vous voyez, ça fait une très belle photo, et je crois que les Ajacciens la connaissent quand même un peu, cette photo-là.
Bien, qui s'intéresse particulièrement à l'exposition de Tino Rossi, où on peut écouter bien sûr toutes ces chansons qui sont diffusées?
Je vais peut-être vous étonner, parce que, évidemment, la majorité, faut dire ce qui est, la majorité ce sont quand même des gens d'un certain âge. Mais j'ai été étonné de voir, par exemple, un groupe de gamins, de 6 gamins hier, des gamins entre 10 et 14 ans, venir avec une pochette de disques en disant « Est-ce que Madame Rossi est là ?» ou « Laurent, est-ce qu'on peut faire dédicacer ?» On a les disques de Tino à la maison, ça nous intéresse et tout. Et les gosses ont été très déçus quand je leur ai dit « Non, Madame ne peut pas être là pour l'instant et Laurent sera là plus tard, etc. » Mais les gosses étaient vraiment très, très déçus. Hein. Il a fallu que je les réconforte un petit peu, quoi. Mais ils ont été très emballés par l'exposition et ça leur a plu. Il demandait des détails, surtout sur les photos, sur les verres, sur les... Voilà. Mais alors, j'ai vu passer des gens de tous les âges, hein, je peux dire. Hein.
À peu près combien par jour?
Oh, faut compter environ entre 200 et 250 personnes par jour, ce qui n'est quand même pas mal.
Ce qui n'est pas mal.
J'aimerais mieux que ce soit le double, bien sûr, mais c'est déjà pas mal.
Ce qui est pour vous certainement une grande satisfaction, une grande joie de voir que les gens s'intéressent non pas seulement à votre travail, mais à la personne de Tino Rossi.
D'ailleurs, vous savez, pour vous en rendre compte, il suffit de lire le livre d'or qui est apposé à l'entrée, enfin à la sortie quoi, de l'exposition. Et ce que mettent les gens dessus, c'est vraiment extraordinaire. Et les gens, aussi bien des jeunes femmes de 20 ans, des jeunes filles de 20 ans, que des gens très âgés ou des gamins qui ont signé, et ce qu'ils mettent, le petit mot qu'ils mettent, je vous assure que ça fait quelque chose, ça fait chaud au cœur. Hein. Pour moi, ça me fait plaisir. Hein. Étant l'instigateur de l'expo, ça me fait vraiment très plaisir, j'en suis très content.
On avait plusieurs fois ce désir que cette exposition soit renouvelée chaque année, entre autres.
Chaque année, ça me semble difficile, parce que vous savez, il faut essayer de renouveler un peu aussi les photos, même si on remet déjà quelques photos déjà. Mais enfin, si je peux faire personnellement une expo tous les deux ans avec d'autres photos et d'autres objets Tino, je le ferai volontiers. Maintenant, je crois que la municipalité, en la personne de Mme Ramaron, compte faire quelque chose tous les deux ans aussi. Alors donc, on se... On se compléterait, tantôt l'un, tantôt l'autre, et puis on essaierait de s'arranger pour faire quelque chose de valable, parce que Tino le mérite plus qu'amplement. Hein.
50 ans d'amour entre vous et moi. 50 ans d'amour, ça ne s'oublie pas.
Peut-être un mot final sur la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? La dernière fois qu'il est apparu sur scène...
Moi, je l'ai connu... Avant qu'il fasse le Casino de Paris, j'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois avec lui, enfin, sur le port, pas chez lui, pas au Scudo. Hein, je n'allais jamais l'embêter au Scudo. Moi, je le voyais sur le port, on discutait, et on voyait déjà que Tino était déjà malade. Mais pas un mot sur la maladie, sur quoi que ce soit. Hein. Et c'est lui qui parlait, c'est lui qui me demandait des renseignements, tout ça, qui me disait ce qu'il allait faire et tout. Il ne se plaignait jamais, pas un mot. Pourtant, il était déjà malade et il le savait. Et ensuite, je suis monté à Paris pour voir son dernier spectacle, ne sachant pas, malheureusement, que c'était le dernier. Hein. Et moi, j'ai été bouleversé de voir cet homme à 76 ans faire ce qu'il faisait au Casino sur scène et interpréter encore des airs, comme il faut les chanter. Hein. Le rêve passe, le Papa Noël, l'Ave Maria de Schubert, chanter des choses comme ça à son âge. Et les gens étaient debout pour l'applaudir, c'était formidable, hein. J'en ai des frissons rien qu'en parler. Hein. Ah, c'était merveilleux, et il a fait pendant 2 mois, il a fait salle comble, vraiment salle comble, il y a 1800 places au Casino de Paris, il y avait 1800 personnes, il y avait souvent des personnes dans les allées, debout, pour l'applaudir. Mais c'était merveilleux, c'était vraiment... Un cadeau qu'il a fait, parce que ce qu'il a voulu faire, c'est pas pour... Vous savez, il n'avait plus rien à prouver à cet âge-là. Hein. Il était connu de partout. Et ce qu'il a voulu faire, c'est un cadeau, je crois, à ses plus fidèles admirateurs, à ceux qui vraiment l'aimaient, qui voulaient le voir. Et je crois qu'il savait qu'il était condamné et il a fait ça volontairement, à mon avis. Hein. J'en prends la responsabilité de dire ça, mais je crois que c'est ça.
Le costume que vous exposez là, c'était un costume de l'époque.
C'était prêté par Mme Rossi. Hein.
Oui, c'était le costume de son...
C'est un des derniers costumes qu'il a porté justement au Casino de Paris, dans la série opérette. Parce que si vous voulez, la première partie, Tino faisait plusieurs séries, je vous explique après. La deuxième partie, c'était le tour de chant. Bon, alors, la première partie, il faisait une série chanson corse, un tableau tango, un tableau opérette. Et le costume que vous voyez là, avec le pantalon blanc et la veste bleu ciel, ça faisait partie de la série opérette. Et je me souviens fort bien, avec la casquette, et là, il chantait bon, Méditerranée, Le Marchand de Soleil, Naples au baiser de feu, les airs principaux des 4 opérettes, et Le Temps des guitares. Voilà. Le costume m'a été prêté par Mme Rossi. Hein.
Voilà, vous nous avez dit pas mal de choses sur la personne de Tino Rossi que vous avez très bien connue. Et je crois que je vais vous laisser...
J'aurais préféré le connaître encore mieux. Si j'avais été un peu plus vieux, je pense que je l'aurais connu encore 10 ans de plus. J'aurais bien voulu le connaître avant la guerre, croyez-moi.
Vous en avez profité et vous en faites profiter d'autres par le moyen de ces photos, de cette exposition.
C'est ce que l'on peut.
Voilà. Merci M. Osvaldo et puis bon courage pour la suite.
Je vous en prie, au revoir et merci à vous.
Je suis marchand de soleil, je chante à tous les échos. Soleil, voici le soleil, voici des refrains nouveaux. Lorsque la vie connaît des orages, pour consoler filles et garçons, et de leurs yeux chasser les nuages, il me suffit de quelques chansons. Je suis marchand de soleil, je chante à tous les échos. Soleil, voici le soleil, voici le refrain nouveau. Je suis marchand de soleil, je vais. Quand votre cœur m'appelle, suis